Le journal, Fanny Marceau, bonjour.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Résister à l'appel du chauffage, hésiter à augmenter la température pour ne pas trop dépenser. Le drame de millions de Français face à la flambée des prix de l'énergie, électricité, fuel, gaz. Vous êtes nombreux à vous serrer la ceinture, c'est ce que montre le baromètre annuel du médiateur de l'énergie que vous avez pu consulter en exclusivité pour Europe 1, Maud Descamps.
Oui, je vais vous donner un chiffre et vous allez tout de suite comprendre. 60% des Français déclarent avoir réduit le chauffage chez eux pour ne pas avoir à payer des factures trop élevées. C'est deux fois plus qu'il y a deux ans, s'alarme Frédérique Ferriot, directrice générale du médiateur de l'énergie.
Les prix ont augmenté, probablement qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui ont des difficultés financières. Après, les gens ont été aussi peut-être plus souvent présents chez eux avec les confinements. On a eu beaucoup de télétravail et du coup, peut-être aussi que les personnes ont fait plus attention. Mais c'est vrai que c'est particulièrement frappant, ce doublement.
Ces indicateurs montrent que la précarité énergétique ne touche plus uniquement les 6 millions de foyers aidés par le chèque énergie, mais une base bien plus large. Mais c'est pour les ménages déjà précaires que l'hiver s'annonce particulièrement difficile, malgré les aides annoncées par le gouvernement. Un quart des Français déclarent avoir rencontré des difficultés pour payer certaines factures de gaz ou d'électricité. Ils étaient 18% l'an dernier.
Maud Descamps, spécialiste énergie d'Europe 1.
Côté carburant, ça flambe également. 1,54€ en moyenne le litre de gasoil la semaine dernière, franchissant son record de 2018. L'essence n'est pas loin, 1,60€ le sans-plomb 95 en moyenne. Et là, on est sur un record qui date de 2012.
Et oui, il était à 1,66€ à l'époque. Des prix qui augmentent donc dans tous les secteurs. L'inflation va durer au moins jusqu'à fin 2022 et pourrait être plus forte que prévu. C'est ce qu'annonce la Banque de France qui maintient que cette inflation reste néanmoins temporaire.
Une France plus industrielle et à la pointe de la technologie d'ici 2030, c'est ce que prévoit Emmanuel Macron. Il présente son plan à plusieurs milliards d'euros ce matin.
Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
À 6 mois de la présidentielle, ce projet économique, c'est aussi une stratégie politique, stratégie de candidat d'ailleurs.
Oui, et pour preuve, une fois n'est pas coutume, rien n'a filtré ou presque des annonces précises. Emmanuel Macron veut créer la surprise ce matin. Quel sera le montant définitif de ce plan? 30 ou 50 milliards? Sur quelle durée va-t-il s'échelonner? 5 ou 10 ans? L'Élysée entretient volontairement le flou. Il faut dire que le chef de l'État joue là l'un des derniers actes de son mandat. Mais un acte fondateur, espère-t-on, dans la Macronie pour le potentiel prochain quinquennat. Emmanuel Macron, qui cherche à se forger la stature d'un président bâtisseur. Son entourage convoque régulièrement l'exemple de Georges Pompidou, lui, qui a lancé de grands fleurons comme le TGV ou le Concorde. Et manière de couper l'herbe sous le pied à la droite, le chef de l'État veut marcher dans les pas de cette figure tutélaire, mais avec ses propres paris, l'espace, l'automobile, le nucléaire ou encore l'intelligence artificielle. Tout un programme à 6 mois de la présidentielle. Nul doute qu'Emmanuel Macron pose là les jalons de sa future campagne.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. La volte-face de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, ne fera finalement pas cavalier seul. Hier, sur le plateau de TF1, celui qui avait refusé la primaire et qui estimait être le candidat naturel de la droite a finalement accepté de se soumettre au Congrès des Républicains. Les militants voteront le 4 décembre prochain. La question du cumul des mandats refait surface aujourd'hui au Sénat. Proposition de loi déposée pour permettre aux élus d'avoir plusieurs casquettes. Depuis 2014, les sénateurs et députés ne peuvent plus avoir de fonction locale. Pour Hervé Marseille, président du groupe centriste au Sénat, qui est à l'origine de ce texte, cette déconnexion entre mandat national et local ne fonctionne pas. Il était l'invité de Julien Pierce ce matin sur Europe 1.
Ça n'a pas marché parce que François Hollande et les socialistes, lorsqu'ils ont proposé cette mesure en 2014, avaient inscrit dans l'exposé des motifs de la loi que ça correspondait en fait à une rénovation du Parlement. En disant, la révision constitutionnelle de 2008 a donné plein de pouvoirs au Parlement, il va y avoir beaucoup de travail et il faut que les parlementaires ne fassent plus qu'une chose, travailler au Parlement. Bon, à partir de là, pas le temps de travailler dans les collectivités. Ben, ça n'a pas marché, d'abord parce que force est de constater que malheureusement, le Parlement a deux fois moins de pouvoirs qu'en 2014. On peut pas avoir deux types d'élus, ceux qui sont au Parlement et ceux qui sont dans les territoires. Il faut relier le Parlement et les territoires, il faut que les parlementaires et des racines dans les territoires, ils aient des pieds dans les territoires, et je crois que ça serait une bonne chose.
Le sénateur Hervé Marseille sur Europe 1. Le torchon brûle toujours entre la France et l'Algérie. Rien ne va plus depuis les propos d'Emmanuel Macron sur le système politico-militaire du pays.
Et nos deux nations s'affrontent aussi sur la question de l'immigration. Europe 1 vous révélait il y a quelques semaines que la France a réduit de 50% ses visas délivrés aux Algériens. Véritable sanction face à une Algérie qui refuse de récupérer ses ressortissants irréguliers. Conflit qui ne cesse de s'envenimer, Louis de Raguenel.
Oui, nouvel épisode de la crise diplomatique, cette fois sur les chiffres de l'immigration. Le président Tebboune a accusé Gérald Darmanin d'avoir gonflé le nombre d'Algériens que la France cherche à expulser. Ce sont les mots du président algérien qui appelle volontairement le ministre de l'Intérieur par son deuxième prénom, rappelons qu'il est descendant de Harki. Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge, il n'y a jamais eu 7000 demandes d'expulsion de clandestins algériens, c'est complètement faux. Et Tebboune de donner son chiffre, 94. Si on écoute le président algérien, la France n'aurait donc demandé cette année que 94 expulsions de ressortissants algériens. Sauf que selon nos informations, confirmées hier après-midi par le ministre de l'Intérieur, la France a ordonné depuis janvier l'expulsion de 7730 Algériens en situation irrégulière, dont 97 fichés pour terrorisme et 260 ont été condamnés pour graves troubles à l'ordre public. À quelques jours des commémorations du 17 octobre 61, c'est-à-dire dimanche prochain, où la police parisienne avait réprimé dans le sang une manifestation illégale organisée par le FLN, la tension n'a jamais été aussi explosive entre Paris et Alger.
Louis Dragnel à Londres, journée cruciale au procès du Bugalet Braise. L'ex-commandant du HMS Turbulent, sous-marin de la Royal Navy, va témoigner.
En 2004, le Bugalet Braise avait sombré en quelques minutes à peine au large des Cornouailles. 5 marins bretons sont morts. L'une des pistes évoquées, c'est qu'un sous-marin aurait emporté le navire par le fond. Mais son commandant, Andrew Coles, n'avait jamais témoigné. Une première, donc, très attendue par les familles des victimes, Anaïs Cordoba.
Depuis 17 ans, la version de la Royal Navy n'a pas bougé. Le 15 janvier 2004, jour du naufrage du Bugalet Braise, le sous-marin HMS Turbulent est resté à quai au port de Devonport. Pourtant, plusieurs éléments contredisent cette affirmation, comme ces documents déclassifiés de l'OTAN qui citent le HMS Turbulent comme participant à un exercice en mer ce jour-là. Aujourd'hui, les familles des naufragés ont donc peu d'espoir qu'Andrew Coles, l'ex-commandant du sous-marin, change de version, mais leur avocat maître Dominique Tricot veut rester optimiste.
Une audience publique, c'est toujours un moment où peuvent se passer des choses. Andrew Coles va se trouver face à la famille des victimes. Est-ce que ça va l'impressionner? Il n'est plus tout jeune, je ne sais pas quel est son état de santé. Avant tout, ces gens sont des marins. Les marins portent un honneur et une dignité. Et c'est au nom de cet honneur et de cette dignité que je veux croire que le commandant Coles dira ce qu'il sait.
Hier, un responsable de la Royal Navy a réitéré devant la cour que le submersible britannique ne se trouvait pas dans la zone du naufrage le 15 janvier 2004. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Près de 4 heures séquestrée à bord d'un navire de commerce à Dunkerque. Ce n'est pas un film. Dans la nuit de dimanche à lundi, une vingtaine de membres d'équipage du Trudy ont été retenus contre leur volonté par une dizaine d'individus. Ce bateau cargo saisi par les douanes avec plus d'une tonne de cocaïne à son bord avait été immobilisé dans le port. Le commando a fouillé le navire de fond en comble avant de repartir bredouille vers 5 heures du matin. Une enquête a été ouverte pour séquestration.
Une histoire incroyable. Première nuit en garde à vue également pour 3 lycéens de Comble-la-Ville. Un majeur soupçonné d'avoir agressé son enseignante et 2 mineurs suspectés d'avoir filmé la scène.
La vidéo, vue plus d'un million de fois, montrait l'élève projetant sa professeure au sol alors qu'elle tentait de l'empêcher de quitter la classe. Les faits se sont déroulés vendredi. L'enseignante a porté plainte. Une enquête pour violence avec circonstances aggravantes a été ouverte.
Enfin, la bronchiolite est de retour avec de vrais risques pour les nourrissons.
Le conseil scientifique craint une épidémie de grande ampleur. La maladie n'a que très peu circulé pendant la crise sanitaire. Les nourrissons sont donc moins prêts à y faire face, surtout les moins de 3 mois, plus susceptibles de développer des formes graves. Pour les protéger, évitez donc de les emmener dans les lieux publics ou de les confier à des personnes malades.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.